A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Je suis Esther et aujourd'hui, je suis accompagnée de Clémence. Salut Clémence.
Salut.
Ainsi que de notre invitée Mathilde Himmer. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez peut-être entendu son nom récemment parce qu'elle est l'une des instigatrices de la Convention citoyenne pour le climat. Cette première qui a vu le jour en France il y a un an maintenant et qui vient d'achever ses travaux. Cette Convention citoyenne pour le climat, c'est l'occasion de parler environnement, bien sûr, mais aussi renouveau démocratique. Comment on réinvente un modèle qui peut sembler un peu euphémisme à bout de souffle quand près de 60% des gens ne vont plus voter, comme ce fut le cas pour le second tour des élections municipales. On va explorer ces thématiques donc au cours de cette interview. Pour commencer, on peut peut-être se pencher sur ce qu'est la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Mathilde ?
Ouais, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui ont été tirés au sort. Donc ça aurait pu être vous, votre cousin, votre grand-mère. C'est vraiment 150 citoyens tirés au sort aléatoirement sur des numéros de téléphone qui sont représentatifs de la diversité de la société française sur 6 critères. Sur un critère de sexe, critère d'âge, à partir de 16 ans. Un critère de zone géographique, de typologie de zone géographique, de niveau de diplôme, de catégorie socio-professionnelle. Bref, une sorte de mini-France qui s'est retrouvée pendant 7 week-ends, et qui a délibéré pour arriver à des propositions qui permettent à la fois d'avoir une ambition climatique très importante et en même temps de lier cela à la question de la justice sociale qui a fait défaut, parce que vous vous souvenez d'où vient cette convention. Elle est née évidemment du mouvement des Gilets jaunes, et on se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait été lancé au moment de la taxe carbone, parce que cette taxe était considérée comme totalement injuste, parce qu'elle pesait 3 fois plus sur les ménages les plus modestes que sur les ménages les plus aisés. Et donc la Convention n'a pas du tout traité que de la taxe carbone, loin de là, mais c'était vraiment dans ce souci de comment est-ce qu'on lie une ambition climatique sans laisser personne au bord du chemin.
Donc justement, il y a un objectif défini qui était assez clair, atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. Donc, il vient d'où cet objectif ? Comment on l'a défini à la base ?
Au tout début, moi, je suis partie d'un collectif qu'on a vraiment monté à plusieurs, qui s'appelle les Gilets citoyens, dans lequel il y a à la fois des gilets jaunes, des militants écolos et des experts de la démocratie participative et délibérative. Et quand on s'est retrouvé d'abord sur l'envie de dire que le grand débat sur la méthodologie démocratique, il y avait une partie d'enfumage parce qu'on ne savait pas ce qu'allait faire le président de la République de l'ensemble des propositions. Donc on s'est retrouvé d'abord pour dénoncer le grand débat, et comme on n'aime pas dénoncer pour dénoncer, on s'est aussi retrouvé sur une proposition commune qui était cette idée d'assemblée citoyenne tirée au sort sur 3 sujets. La question écologique, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, qui était une des grandes revendications des Gilets jaunes, et puis aussi la question de la justice fiscale. Et quand on a commencé à designer l'ensemble du processus et que les premiers échanges avec l'Élysée ont eu lieu, on avait nous comme proposition d'avoir une ambition qui allait au-dessus de 50% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et en négociation avec l'Élysée, on a décidé, eux voulaient 40%, parce que c'est ce qui est dans la loi aujourd'hui, et l'État n'arrive même pas à faire ce qui est dans la loi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs et qu'on n'arrive pas à les tenir, c'est quand même ça la réalité aujourd'hui. Et donc en négociant, on s'est dit, on va mettre 40% ok, mais avec un au moins devant, et c'est donc les citoyens de la Convention eux-mêmes qui décideront si oui ou non ils veulent aller plus loin que cette ambition-là. Et ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la Convention est très intéressant, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que les citoyens de la Convention, dès la première session, qui était sur le diagnostic scientifique, ont questionné ce mandat. Finalement, pourquoi 40%? Pourquoi au moins 40%? 2030? Qu'est-ce que ça veut dire? Et assez rapidement, ils l'ont questionné en se disant, est-ce que ça a du sens de calculer les émissions comme on le fait de manière habituelle aujourd'hui dans toutes les négociations internationales, c'est-à-dire qu'on compte les émissions qui sortent sur le territoire de la France, en l'occurrence, ce qu'on appelle les émissions territoriales. Or, on a tous et on consomme tous quotidiennement des produits qui sont « made in China ». Ça veut dire que la pollution et le CO2, il est compté dans les émissions chinoises, mais c'est nous qui les consommons. Donc il y a un peu une absurdité, et d'autant plus quand on prend la question de justice sociale et d'emploi, on voit bien tous que finalement on a délocalisé bon nombre d'emplois et de nos industries en Chine, et en même temps qu'on compte la pollution chez eux alors que c'est nous qui la consommons. Donc finalement ce mandat-là, ils l'ont pris aussi sous la forme de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, et pas juste ce 40% d'émissions territoriales comme on l'avait posé au début.
Alors, je vais tenir mon rôle préféré dans ce genre d'interview. Je vais faire la naïve slash l'avocat du diable. Et donc, je vais revenir sur un truc que tu as dit il y a quelques minutes, que tu viens d'un mouvement qui s'appelle les Gilets citoyens et qui rassemble des gilets jaunes et des écolos. Et je t'arrête tout de suite, mais il paraît que la fin du monde et la fin du mois, c'est deux combats opposés. Et du coup, j'arrive pas à me rendre compte en quoi faire une convention citoyenne pour le climat permet de répondre à la fois au problème de fin du mois soulevé à juste titre et très légitimement par les Gilets jaunes en réaction à cette annonce de taxes qui concernait directement une énorme partie de la population, et en même temps de réussir à prendre en compte les impératifs à moyen long terme, même si moyen et long terme ça commence à se rapprocher très vite. Mais explique-moi s'il te plaît en quoi les deux impératifs, fin du mois, fin du monde, trouvent une forme de solution dans la création de cette convention citoyenne.
Bah, c'est assez simple, en fait. Je vais répondre en prenant le chemin inverse. C'est-à-dire, si tu ne lis pas et que tu dis que fin du monde s'oppose à fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais partie de ceux qui sont le plus en galère sur la fin du mois, tu fais prioriser les questions sociales, et c'est bien normal. Sauf que, on sait bien que les questions environnementales, les chocs, les crises, toutes celles qu'on vit déjà dans beaucoup de coins sur la planète, y compris dans des pays riches comme les États-Unis, mais aussi en France, canicule et compagnie, c'est tout le temps les plus démunis, les plus pauvres qui trinquent en premier. Et donc, si tu fais rien pour la question écologique, la fin du monde, parce que toi, tu es sur la fin du mois et que c'est ta priorité, bah ok, mais après-demain, tu vas te retrouver encore plus en galère et tu feras partie des premiers qui vont payer. Dans l'autre sens, si tu fais partie de ceux qui, comme moi, sont plus militants, écolos, plus portés sur la fin du monde, bah, c'est assez simple, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Si tu fais des trucs qui sont géniaux pour le climat, mais qui ne prennent pas en compte la question sociale, bah, ça donne une taxe carbone complètement injuste, qui sur le papier est très belle hein, pour le climat, mais qui ne change pas, qui ne transforme pas la société, parce qu'elle n'embarque pas les gens, parce qu'on ne fait pas une transition écologique contre les gens ou sans les avoir dans la dynamique. Donc en fait, à partir du moment où tu comprends que tu ne peux pas faire l'un sans l'autre, bah, tu te rends compte que ça va ensemble, d'autant plus qu'on le voit, les questions environnementales, finalement, c'est, moi je pense, le nouvel accélérateur des inégalités sociales. Donc une fois que tu as dit ça, tu te rends compte qu'il faut réussir à les combiner, et comme on n'y arrive pas aujourd'hui par nos experts et notre démocratie représentative seule, pour une raison assez simple, c'est que quand tu prends notre démocratie représentative aujourd'hui, tu te rends compte que dans nos élus, les classes populaires sont sous-représentées. Tu as par exemple à l'Assemblée nationale, tu as un ouvrier, je crois, c'est 20% de la population française. Comment est-ce que tu veux du coup imaginer une taxe carbone ou tout autre outil qui prend en compte le vécu de ces gens-là si, à un moment, ils ne sont pas représentés et qu'ils se sentent, et ils l'ont dit, on l'entend tout le temps, les oubliés de la République, les invisibles. Donc, c'est pour ça que la convention et le tirage au sort me paraissent utiles, parce qu'ils permettent de mieux représenter ces classes populaires et donc d'arriver à se poser les questions en ayant tout le monde autour de la table.
Tu as commencé à répondre à ma deuxième objection, mais je vais quand même la soulever, parce que c'est important. En quoi est-ce que des citoyens tirés au sort seraient plus compétent, plus pertinent à se pencher sur des questions de politique, finalement, de politique générale? Je me déteste en posant cette question parce que je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais c'est une objection qui est entendable. On est habitué en France à fonctionner avec un système de démocratie représentative. On vote, on élit des gens dont le job est ensuite de réfléchir à l'état de la société, d'identifier les problèmes, de proposer des solutions. Et quelque part, en quoi est-ce que 150 citoyens tirés au sort peuvent apporter quelque chose de différent, de mieux, que les gens dont c'est le job, les gens auxquels on a confié ce job?
Alors, je vais répondre de manière très cash. C'est pas mieux, mais c'est différent. C'est-à-dire que t'as plusieurs manières d'être légitime et t'as plusieurs manières d'être représenté. Le système représentatif, comme on le connaît aujourd'hui, tu choisis ton représentant. De la même manière que tu choisis ton avocat quand tu dois être défendu, et il te ressemble pas, ton avocat. Il a pas le même vécu que toi, mais il va défendre tes intérêts. Pour un député, c'est la même chose. Tu choisis, via l'élection, ton député. Le tirage au sort, c'est complètement différent parce que c'est une légitimité qui vient parce qu'il représente le vécu des gens. C'est-à-dire, et on le voit d'ailleurs quand tu regardes l'Assemblée nationale, encore aujourd'hui, c'est une assemblée qui est très masculine, CSP+, où les classes populaires sont sous-représentées, les femmes sont sous-représentées, bref, toutes les catégories les plus fragiles, on va dire, sont sous-représentées à l'Assemblée nationale. Alors que, dans un tirage au sort, si tu mets en place des quotas et que tu fais correctement ton tirage au sort, tu as une représentation beaucoup plus fidèle de la société. Et donc c'est vraiment ça, pour moi, le bon point, entre guillemets, du tirage au sort. Ça ne veut pas dire que c'est mieux que l'élection, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter à la poubelle tous les élus, loin de là. Mais par contre, je pense qu'on voit tous que notre démocratie, elle va mal. On voit le niveau d'abstention élection après élection. Et donc, il faut la mettre à jour. Et moi, je pense que le tirage au sort est une brique qui vient compléter une représentation par l'élection qui est malade aujourd'hui.
Ok, j'accepte cette réponse. Mais du coup, encore une fois, comme dans notre démocratie représentative, on a mis en place des processus de prise de décision, à l'Assemblée, il y a des commissions qui préparent des textes, qui sont votés, etc. etc. Vous, comment vous avez fait pour prendre des décisions à 150 personnes tirées au sort, donc qui ne se connaissaient pas et qui sont représentatives de la société, tu l'as dit, donc très différentes. Au moins, tu vois, l'Assemblée, comme tu viens de le dire, ils viennent tous des mêmes milieux, ils se connaissent tous, enfin, ils ont tous la même culture, etc. Ils peuvent se comprendre. Et vous, comment vous avez fait?
C'est un peu comme un déjeuner de famille, sauf que tu as des gens dont c'est le métier de faciliter, ça, ce qu'on appelle la facilitation, de faciliter les débats, pour éviter que ça parte en engueulade de famille, mais au contraire, qu'on arrive à faire avancer le débat. Avancer le débat, ça ne veut pas dire que cette assemblée devait produire à tout prix du consensus et qu'on devait à la fin tout voter à l'unanimité chacune des propositions. Non. D'ailleurs, ça n'a pas été le cas. Il y a la semaine de 28 heures, par exemple, qui a été rejetée par l'assemblée, le 110 km/h qui a fait couler beaucoup d'encre. Au sein de l'assemblée, c'était très très débattu, et à la fin, ça a été voté que à 60% au sein de l'Assemblée, alors que toutes les autres propositions arrivaient à 80%. Donc la réponse à ta question, c'est que tout au long du processus, tu as des gens dont c'est le métier d'animer, de faciliter les débats, de faire en sorte que tout le monde prenne la parole, parce qu'il y en a qui ne sentent pas légitimes à la prendre, donc comment est-ce que tu les amènes à donner leur avis, qu'ils ne soient pas non plus oubliés dans le débat. Mais aussi au moment du vote, où les modalités de vote ne sont pas un truc unanimiste, mais au contraire, l'idée est de montrer où en est la société sur la question. Est-ce qu'il y a un grand consensus? Est-ce qu'il y a un dissensus? Et donc, qu'on ait les pourcentages de votes pour, contre et les votes blancs pour chacune des propositions. Tu les trouves dans le rapport final, ces résultats.
Mais alors, une fois qu'on a dit ça, comment on éclaire ces décisions? Parce que Clémence l'a soulevé tout à l'heure, tu as commencé à y répondre sur « Ok, c'est des gens comme... » Voilà, des gens comme pourrait être notre grand-mère, notre oncle, notre collègue de bureau... Mais ces personnes-là n'ont pas forcément d'expertise sur le sujet du climat. Donc comment est-ce qu'elles ont éclairé leurs décisions? Comment elles ont fini par prendre position sur beaucoup de sujets? Moi, quand je vois les sujets, il y en a énormément où je me dis « je ne me sens pas du tout les compétences de répondre à la question qui est posée ».
C'est une question qui est hyper importante. Et la réaction que tu as de dire « je ne me sens pas du tout compétente pour répondre à la question qui est posée », et la réaction naturelle que je pense 95% des citoyens tirés au sort de la convention ont eu au début. Et ils l'ont eu encore plus après le premier week-end, c'était le week-end du diagnostic scientifique, où c'est des scientifiques du GIEC qui sont venus présenter ce que disent des scientifiques du monde entier aujourd'hui sur la question climatique, où on en est finalement de la science du climat.
Et le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat.
Exactement. Donc, en gros,
qui fait valeur de parole scientifique sur la situation de l'évolution du climat aujourd'hui.
Merci pour la riff, Clémence.
Je ne fais qu'en métier.
Ouais. Donc, 2/3 des citoyens à la fin de cette session-là sont venus nous voir en nous disant « On s'est pris une énorme claque, électrochoc, baf », c'était ça les mots utilisés, parce que si la plupart d'entre eux, à part quelques climato-sceptiques qui ne le sont plus depuis, la plupart d'entre eux avaient conscience que « Ouais, il y a un problème avec le climat », mais pas du tout, et pas du tout, du tout, du tout, du niveau d'urgence, ni du niveau d'impact, y compris en France, dans notre pays. Et ça, ça a été un peu un moment de choc qui ensuite les a amenés à se poser des questions sur 5 grands sujets qu'on avait prédéfinis. Ils étaient répartis en groupes de travail, se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, produire. Donc on est vraiment parti du quotidien des gens pour que ce soit pas le climat, un truc hyper lointain auquel on comprend rien, c'est 40%, c'est des émissions de gaz à effet de serre, on comprend rien. Mais partir vraiment du quotidien des gens en se disant la question climatique, elle vient transformer profondément nos modes de vie. Ça ne veut pas dire que ce citoyen tout faire, loin de là. Mais il va falloir transformer nos modes de vie aussi en tant que citoyen. Et c'est l'État derrière qui doit accompagner les citoyens et les entreprises à se bouger. Donc ils ont été répartis dans ces 5 groupes de travail. Et dans ces 5 groupes, à chaque week-end, ils avaient des intervenants qui n'étaient pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'on a appliqué ce qu'on appelle la règle du débat contradictoire. Donc il y avait des acteurs en désaccord sur un sujet qui venaient témoigner en même temps, qui avaient chacun le même temps de parole et qui étaient aussi en question-réponse avec les citoyens sur un sujet donné. Je prends un exemple, le deuxième week-end par exemple, moi j'étais dans le groupe Se Nourrir sur la question de qu'est-ce qui freine finalement cette transition écologique dans le monde agricole. On avait à la table à la fois la FNSEA, qu'un syndicat agricole qui n'est pas très connu pour être très allant sur les questions écolo, bio et compagnie. On avait Greenpeace, qui est connu pour être une ONG assez radicale, et puis on avait un distributeur, Système U en l'occurrence, et chacun a eu le droit à la parole. Évidemment, ils n'étaient pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qui bloque, quels sont les leviers d'action, qu'est-ce qu'on fait, mais les citoyens ont pu entendre les points de vue de tout le monde. Et donc il y a eu ça dans tous les groupes de travail, des points de vue différents, et l'ensemble des intervenants sont listés sur le site. Il y en a eu environ 130, avec, je crois, en gros 25% d'entreprises, 20% d'ONG, 10% de think tank, 10% d'experts scientifiques sur la question climatique, des gilets jaunes aussi qui ont été entendus. Et donc tout ça leur a permis finalement d'entendre de partout qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ça bloque et qu'est-ce qui pourrait faire que ça fonctionnerait demain. Et ensuite, à partir de tout ça, de eux, trancher, choisir le degré d'ambition qu'ils voulaient mettre et puis l'accompagnement en termes de justice sociale qu'ils voulaient mettre pour chacune des propositions.
Je pense que c'est intéressant de dire un petit peu comment ça se passait dans ces groupes de travail. Moi, j'ai eu la chance de venir une fois en reportage dans les coulisses de la convention et j'avais trouvé ça assez fascinant, effectivement, de voir, alors c'était, je ne sais plus quel week-end, en janvier, il me semble, de les voir, en fait, tous affairés en petits groupes autour de leur table en train de rédiger quelles allaient être les propositions, quelles allaient être les mesures proposées. Ensuite, il me semble qu'elles étaient débattues dans le grand hémicycle. Bon, après, ça a été contredit un peu par, par la pandémie de Covid-19. Mais je voudrais revenir sur une chose que tu as dit. Il y avait des citoyens qui, au départ, étaient climato-sceptiques et qui, à la fin, ne le sont plus. Pour moi, ça, c'est quand même une illustration du manque d'informations fiables qu'on a en tant que citoyen au sujet de la question climatique.
Bah oui, et ils nous l'ont tous dit. Hein. Bah, et c'est pour ça que les émissions comme celles que vous faites sont hyper importantes, parce que on voit bien que la question écologique, elle est devenue centrale, enfin une priorité dans la conscience, on va dire, des citoyens français. Et en même temps, moi, ça m'a vraiment frappé de voir l'abysse. Finalement, on est tous un peu climato-sceptiques d'une certaine manière. Et le résultat de ce premier week-end, c'était vraiment ça. C'était des gens qui, vraiment, qui avaient, pour la majorité d'entre eux, compris que, ouais, il y avait un problème, comme nous tous. C'est un peu. Finalement, ils ont pris conscience que c'était pas un petit mal de crâne, mais que c'était plutôt de l'ordre du cancer, quoi. Et à partir du moment où tu poses le bon diagnostic scientifique, bah, tu n'as pas la même réponse. Tu ne soignes pas pareil un mal de crâne qu'un cancer. Donc certains écolos diront aujourd'hui que ce qu'ont fait les 150 soins de tir au sort ne va pas du tout assez loin, qu'il faut être beaucoup plus radical. Peut-être ont-ils raison, mais quand je vois déjà l'abysse qu'il y a entre ce qu'ils pensaient avant sur la question climatique, ce à quoi ils étaient prêts, et ce à quoi ils sont prêts aujourd'hui après 9 mois de travail, c'est monstrueux le chemin. Et donc pour moi, la prochaine question est plus comment est-ce qu'on fait sortir ce qu'ils ont vécu eux, et cette transformation qu'ils ont vécue, qui est une prise de conscience dans la tête, mais j'ai presque envie de dire aussi dans les tripes finalement, de l'enjeu climatique, qui les a amenés, pour beaucoup d'entre eux, à changer leur mode de vie quotidien, qui les a amenés à faire des propositions, si on regarde, avec des choses qui s'imposent à eux demain, qui ne sont pas forcément très mortes. Le 110, typiquement, c'est vraiment pas un truc. Au début, ils étaient tous vent debout contre ce truc-là, parce que personne n'a envie de rouler plus doucement sur l'autoroute, moi aussi, d'une certaine manière, ça... Pardon, mais ça m'emmerde. À nouveau, selon le degré d'urgence et le diagnostic qu'on pose, on n'est pas prêt aux mêmes choses. Et donc ça, je crois que c'est vraiment une leçon où moi-même, je me suis pris une claque, pas la même qu'eux, parce que pour le coup, j'étais consciente des questions climatiques, mais de voir que parfois, en tant que militant, on est un peu enfermé dans notre bulle, on a l'impression que tout le monde est au courant. Et ben non, enfin, en tout cas, pas du diagnostic dans sa totalité.
C'est très intéressant que tu abordes cette question de la sortie de la bulle pour les gens qui sont déjà sensibilisés aux questions et qu'en plus tu nous partages cette expérience de gens qui sont rentrés dans la bulle en faisant l'expérience de prise de conscience finalement de la gravité de la situation. Tu viens de mentionner à l'instant la fameuse proposition sur les 110 km/h. Moi j'avais demandé, est-ce qu'au départ vous aviez reçu un mandat précis? Qu'est-ce que vous aviez reçu comme mandat en fait? Est-ce qu'on vous a dit, vous avez le droit de rêver mais dans ce cadre, ne dépassez pas? Est-ce que tu peux me reposer un petit peu le contexte de départ? Parce que encore une fois, je pense que ça aide aussi à comprendre cette critique que tu viens de relayer. S'il y en a qui disent que ça n'est pas assez loin, moi j'ai envie de savoir d'où vous partiez. Tu viens d'expliquer d'où vous partiez en tant que membre de la convention d'univers très différent, de niveau de conscience très varié, mais au niveau du mandat que vous aviez reçu, est-ce que vous aviez le droit de renverser le capitalisme ou pas? Vous attendez la permission de changer le monde.
Bah, pour être honnête, le mandat, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il a été négocié avec l'Élysée. La phrase en elle-même, réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 90 dans un esprit de justice sociale, tout vient du collectif des citoyens sauf le chiffre 40%. Donc avec ça, tu peux le prendre comme tu veux, tu peux renverser la table et dire qu'il faut remettre en cause le capitalisme. Et ils ont eu des propos sur la question de est-ce qu'il faut la croissance absolue ou pas. Néanmoins, la réponse que font les citoyens aujourd'hui, les 150, c'est pas celle-là. Moi, j'en aurais peut-être une autre, tu vois. Je pense que c'est aussi pour ça que certains militants écolos, une vision peut-être plus systémique et plus radicale, considèrent que ça va pas du tout assez loin, ce truc. Donc, je sais pas trop quoi te répondre à ça, mis à part qu'au tout début, oui, le gouvernement a essayé de nous enfermer d'abord sur la taxe carbone, ce qu'ont refusé les citoyens en disant ce truc. Déjà, on ne veut pas être l'outil du gouvernement pour réussir à faire passer une taxe que lui n'a pas réussi à faire passer d'en haut. Et puis, cette taxe, elle est profondément injuste. Elle pèse 3 fois plus sur les classes les plus populaires que sur les classes aisées, donc on n'en veut pas.
Oui, parce que rappelons que la taxe carbone, c'était une taxe, en gros, sur le carburant, et donc ça pesait sur les ménages qui ont des voitures, notamment, davantage que sur d'autres, si je résume.
Oui, et ça, c'est un message qui a été très fortement entendu, et d'ailleurs, il y avait des gilets jaunes hein, dans les 150, évidemment. C'est de se dire, si vous avez un peu écouté des gilets jaunes, vous avez sûrement entendu ce truc de « je me suis senti piégée ». Parce que je suis obligée de prendre ma bagnole pour aller faire mes courses, pour aller au boulot, et donc, déjà quelques mois avant, on nous avait 1080 km/h, mais en plus là, on nous demande d'être payé plus cher un carburant dont on est dépendant, parce qu'on ne nous a pas mis à côté des alternatives qu'on pourrait prendre. Et ça se retrouve dans tous les travaux de la Convention, à chaque fois qu'ils ont dû mettre une obligation, un truc qui peut paraître un peu chiant, à chaque fois ils te proposent une alternative. Et typiquement, ce 110 km/h, là, j'y reviens, c'est un truc qui a été pensé dans un ensemble global. Ou c'est le 110 km/h sur autoroute, qui sont des voies qui ne sont pas utilisées par les gens au quotidien pour aller bosser, ou par très peu de gens pour aller bosser. Et à côté, ils développent le train, un train beaucoup plus accessible pour tous, avec une TVA réduite, des tarifs préférentiels au niveau d'un certain nombre de régions. Et à côté de ça, en termes de justice sociale, ils veulent aussi diminuer la part de l'avion pour que, à nouveau, le train soit demain la manière de se véhiculer sur tous les trajets, j'allais dire, longs, sur lesquels on n'a pas d'autres prises. Par ailleurs, ils développent assez massivement la voiture électrique en permettant à nouveau à tous de pouvoir y avoir accès. Et ça, c'est important parce que la voiture électrique, c'est vraiment un truc qui aujourd'hui, comme tu es quasiment obligé d'aller sur du neuf parce que c'est assez nouveau, ça coûte cher. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc ce qu'ils proposent, eux, c'est d'avoir un bonus et une prime beaucoup plus élevée pour que tout le monde puisse y avoir accès à l'achat, mais aussi des locations de longue durée qui permettent à des personnes qui ont des revenus modestes de pouvoir accéder à ça et de ne pas se retrouver piégées par des trucs d'obligation de taxe carbone. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est central et qui a été tout du long travaillé par les 150, de mettre la justice sociale au cœur de l'ensemble de leurs travaux.
Je voudrais revenir un peu donc sur ce cadre et sur cette négociation qu'il y a eu avec le gouvernement pour mettre en place cette convention. Comment on convainc un gouvernement de mettre en œuvre cette idée qui peut sembler inatteignable, inaccessible, voilà. Comment on convainc un gouvernement qui a été formé suite à des élections présidentielles, à des élections législatives, de donner quelques clés, parce que pas toutes, faut pas abuser, parce qu'on n'a pas précisé d'ailleurs quel était l'engagement du gouvernement par rapport aux mesures, mais peut-être que tu pourras le faire en répondant à ma question. Mais du coup, comment on persuade Emmanuel Macron à un moment de dire « Ok, on va faire une convention citoyenne sur le climat ».
Alors, l'engagement qui a été pris par le président de la République, c'est de passer les propositions de la convention sans filtre, soit à la voie réglementaire, soit à la voie parlementaire, soit à la voie référendaire. Et la voie référendaire, c'était une de nos lignes rouges. Pour une raison simple, c'est qu'on pense que dans ce pays, ce qu'on appelle le RIC délibératif est une bonne chose, le référendum d'initiative citoyenne, qui est au préalable préparé par un moment de délibération par une assemblée citoyenne. Comment est-ce qu'on arrive à le convaincre ? C'est pas nous, Gilets citoyens, tout seuls, qui avons convaincu Emmanuel Macron. La réalité, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a mis Macron au pied du mur. Qu'il ne pouvait pas ne rien faire, qu'en plus il a été élu sur une question du renouveau démocratique, que une demande forte des Gilets jaunes, c'était le RIC, et que, en plus de ça, il voyait de l'autre côté, il commençait à se faire déborder par un autre mouvement, qui est le mouvement écolo, mené par des jeunes. Les jeunes ont toujours fait peur au pouvoir. Donc il a essayé pendant un temps de nous diviser, j'ai envie de dire, de mettre d'un côté les Gilets jaunes face aux écolos. À partir du moment où on a commencé à s'unir et avoir une demande ensemble, où la clé d'entrée c'était la question démocratique, c'était compliqué pour lui de refuser à nouveau, parce qu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes. Cette convention citoyenne, c'est un des aboutissements, pour moi, du mouvement des Gilets jaunes en termes de démocratie. Je sais que tous les Gilets jaunes en sont pas ravis. Une part qui est hyper à fond derrière la convention, une autre part qui est hyper contre la convention. Mais en réalité, en tout cas, moi, c'est comme ça que je lis, c'est qu'on ne l'aurait pas fait sans ça. Un autre truc qui est important, et c'est ce que dit beaucoup Loïc Blondeau, qui fait aussi partie du comité de gouvernance avec moi de la convention, c'est que si tu regardes l'histoire et que tu rétropédales un peu, le pouvoir concède des choses quand il pense pouvoir instrumentaliser. C'est ce qui se passe avec la convention. Évidemment que Emmanuel Macron essaye d'instrumentaliser la convention à son intérêt. On l'a bien vu, il répond aux citoyens de la convention le lendemain des municipales pour les enjamber. Personne n'est naïf, on sait pourquoi. Mais si tu regardes dans l'histoire, il y a plein de moments où le pouvoir, ayant essayé d'instrumentaliser, a dû concéder et finalement se fait un petit peu avoir au passage et cède un peu de son pouvoir. Les États généraux, hein, surprend la Révolution, ça a été une concession, sans faire de parallèle, ça a été une concession du roi. Donc je pense qu'il faut aussi admettre et entendre que au jeu de l'instrumentalisation, on n'est pas forcément perdant à tous les coups.
C'est le moment, je pense, où il va falloir commencer à parler de concrètement qu'est-ce qui est ressorti de cette convention citoyenne. Vous avez donc présenté la semaine dernière 149 propositions. Je sais bien que c'est un tout cohérent et que c'est difficile de panacher dedans. Et justement, je ne veux pas qu'on reproduise le travers que j'ai senti à travers l'exposé médiatique qui en a été fait, la synthèse médiatique qui en a été faite. Mais je vais quand même te demander de réussir au mieux cet exercice, de nous synthétiser qu'est-ce qu'il faut retenir des propositions qui ont été faites, quelles sont les mesures les plus emblématiques selon toi. Tu as expliqué tout à l'heure vite fait la logique de package autour de, il faut pas sortir les mesures et les prendre une par une, donc peut-être que c'est de cette façon là qu'il faut que tu le racontes un petit peu, mais allons-y, qu'est-ce qui ressort de cette convention citoyenne?
Alors, je vais essayer d'être le plus fidèle à l'esprit des 150, mais en gros, si je devais le décrire avec mes mots, pour moi, ce à quoi on arrive, c'est un socle de mesures et d'actions cohérents qui dessine un nouveau modèle. Un modèle de société dans lequel on mange mieux, dans lequel on se déplace complètement différemment, dans lequel on est beaucoup moins soumis à des choses qui nous poussent à la surconsommation, et où finalement on va vers moins de bien, plus de lien. Un monde dans lequel il y a plus de justice sociale dans le modèle de production. Et si je prends quelques exemples de mesures un peu concrètes pour montrer pourquoi est-ce que je dis ça, quand je dis mieux manger, c'est par exemple une agriculture évidemment où il y a plus de bio, il y a plus de circuits courts, et où il y a moins de viande. Donc c'est une assiette qui est meilleure pour notre santé, c'est une assiette qui est aussi meilleure pour l'environnement, et c'est une assiette, et ça c'était important pour eux, qui est meilleure pour l'agriculteur, qui est accompagnée pour passer d'une agriculture qui aujourd'hui fait qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui suicident, hein, c'est vraiment aujourd'hui extrêmement compliqué d'être agriculteur. Et donc, ils n'ont pas du tout été en train de montrer du doigt, comme parfois les militants peuvent l'être, à dire « Ah, vous dénoncez les agriculteurs, vous en faites des diables ». Non, ils n'ont pas du tout cette démarche. À chaque fois, ils ont essayé de comprendre qui ça mettait en porte-à-faux et de l'accompagner. Si je prends, quand je disais être moins soumis à des signaux de surconsommation, la publicité. Les gens en ont ras-le-bol, et d'ailleurs, on regarde, il y a un sondage qui a été fait sur les propositions des 150, à part le 110 km/h, toutes les autres sont plébiscitées par les Français. Sur la publicité, je crois qu'il y a 83% des Français qui sont d'accord pour dire on arrête la pub sur les produits polluants, les produits dégueulasses. Parce qu'en fait, on n'a pas forcément le temps, nous consommateurs, de faire toujours le tri. Par contre, à l'État de nous accompagner, et donc de mettre des pubs, en tout cas d'inciter à ce qu'il y ait des pubs pour les produits les plus vertueux et qu'on n'ait plus de pubs pour les trucs dégueulasses. Autrement dit, nous, on s'en fout que notre bagnole, elle fonctionne au fioul ou à l'électrique. Par contre, on veut pouvoir se déplacer. Donc, si la pub, elle doit être demain sur d'autres modèles de bagnole, OK pour nous. Un autre exemple, c'est sur les accords commerciaux, si on prend des choses qui relèvent aussi du niveau européen. Ils disent un truc très clair, c'est qu'ils veulent demain que tous les accords commerciaux, quels qu'ils soient, soient intègrent la question climatique et respectent les accords de Paris, les accords de la COP21. Ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, dans le commerce international, c'est souvent comme ça qu'on baisse les règles sanitaires, les règles environnementales de l'Europe, qui est peut-être la plus avancée sur ces questions-là par rapport aux autres pays à l'international. Et puis ça permet aussi de relocaliser finalement un certain nombre de choses où les producteurs français sont capables de le faire de manière plus vertueuse pour l'environnement, mais on délocalise parce que ça coûte moins cher. Bah non, là on fait des choix. Un autre exemple sur les aéroports, si je prends un truc qui peut être considéré comme radical, ils disent stop, on arrête les extensions d'aéroports, on arrête de construire de nouveaux aéroports parce qu'on sait que l'aviation a un impact extrêmement négatif sur le climat par rapport aux autres modes de transport et qu'il est en pleine expansion. Si on est sérieux avec les questions climatiques, il faut qu'on arrête ça et qu'on trouve des alternatives. Et donc, ils disent, on arrête les extensions, et à nouveau, ils disent, sur le, tout ce qui relève de vol intérieur à la France, où il y a une alternative en train qu'on peut faire en moins de 4 heures, eh bien on favorise le train. Ça, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de bon sens, je trouve, dans leur proposition. Je prends peut-être un dernier exemple. Moi, il y a une des mesures emblématiques que Macron a retoquées lundi, c'est celle sur les dividendes. Ou ce que proposaient les 150, c'est tout simplement de dire toutes les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires à une hauteur de plus de 10 millions, on taxe, on prend 4%. Et ces 4%, on les met pour la transition écologique. En disant finalement, c'est un peu ce qu'on entendait au moment du mouvement des Gilets jaunes à nouveau, où va l'argent et qui paye? Là, il propose que qui paye, ce soit ceux qui sont le plus en capacité de payer, où aujourd'hui, ils ont considéré que les actionnaires et les grosses entreprises sont celles, en tout cas des acteurs qui ont le plus de marge de manœuvre sur le plan financier. Et où va l'argent? Il va à la transition écologique. Donc c'était ça, la logique qu'il y avait derrière. Ça a été retoqué par Macron lundi, et je pense que ça dit déjà... pour moi, lundi, on a déjà eu un premier moment de clarification de la ligne que souhaite avoir Macron sur les 2 ans à venir... Dans son quinquennat, je vois toutes les deux lever le micro.
Oui, je vais être optimiste, naïve ou optimiste, on verra bien. Mais on a quand même vu récemment que quand il faut sortir l'argent, quand il faut vraiment financer la transition, le changement, quoi qu'il en coûte. Pourquoi taxer 4% de 10 millions, tout ça, c'est des piécettes. Quoi qu'il en coûte, on va financer la transition écologique. C'est pas ça que t'as ressenti lundi? Ce silence est beaucoup trop long pour être en fait, une approbation.
Non, mais je ne sais pas s'il faut que je parle en mon nom, s'il faut que je parle au nom des 150. C'est toujours un peu compliqué parce que ce n'est pas nous qui décidons. C'est vraiment eux qui décident. Nous, on est là pour être en soutien, les accompagner, trouver les intervenants dont ils ont besoin, faire la logistique. Donc moi, j'ai mon avis en tant que Mathilde Dimère, membre du comité de gouvernance et puis militante sur les questions de démocratie et d'écologie. Mais je crois que mon avis est moins intéressant que l'avis des 150. Et lundi, c'était assez partagé. Enfin, encore une fois, ils sont très très différents. Et donc, face au président de la République, déjà, il y a l'effet Élysée. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis les pieds à l'Élysée. C'est quand même assez impressionnant. Il y a la dorure, il y a le cadre. Et puis, malgré tout, c'est quand même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, celui qui a été recueilli le plus de suffrages aux dernières élections. Donc, il y a un truc qui est, on arrive, t'es impressionné. Ensuite, t'as un peu le trac parce que c'est le moment de jugement de 9 mois de ton travail. Donc, tu as les oreilles grandes ouvertes et tu attends de voir. Et Macron est quand même hyper talentueux, il faut lui reconnaître, en termes de discours et de savoir dire les mots qu'il faut dire au bon moment. Donc, lundi, c'était le moment de réponse d'Emmanuel Macron, président de la République, aux 150, qui est prévu dans le dispositif, c'est-à-dire que le dispositif, juste pour rappeler, donc pendant 9 mois, les 150 travaillent, ensuite, le président de la République répond, et à la fin, c'est bien les citoyens, les 150, qui ont le dernier mot, parce qu'il y a ce qu'on appelle la réponse à la réponse, où les 150 jugeront s'ils sont contents, ou furax, ou un entre-deux de la réponse et des actes qu'aura réalisé le président de la République suite à la convention, qui aura lieu à la rentrée. Ce qu'a dit le président de la République lundi dans sa réponse aux propositions des 150, c'est 1, je reprends 146 sur 149 de vos mesures. Il s'est engagé, il a même retweeté, tout le monde l'a entendu, et il n'avait pas trop le choix avec les municipales qui ont eu lieu juste avant. Deuxième chose qu'il a dite, je ferai un projet de loi unique pour tout ce qui doit passer au Parlement. Troisième chose qu'il a dite, c'est je suis prêt à aller au référendum sur l'article 1 de la Constitution si l'Assemblée nationale et le Sénat le votent de manière identique, et je suis même prêt à lancer un autre référendum à questions multiples, en 2021, sur des sujets plus concrets parmi vos travaux, si ça mettait trop de temps. Il s'est aussi engagé fermement sur ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, de manière, ce terme un peu barbare, derrière, il y a quoi? Il y a comment est-ce qu'on met un moratoire sur les zones commerciales en périphérie des zones, enfin des villes et villages, pour, un, redonner vie aux petits commerces dans les villes et villages qui font... défaut aujourd'hui, et deux, éviter de bétonner des zones qui ont besoin d'être protégés si on est sérieux sur la question climatique et même généralement sur la question de biodiversité aussi. Donc il a dit ça, il a dit qu'il mettait 15 milliards aussi sur la table en plus sur l'enjeu du plan de relance. Donc, je ne vais pas faire la liste de toutes les choses qu'il a dites parce que, il n'en a pas cité 146, il dit qu'il reprend la 146, il en a cité quelques-unes. Il y a beaucoup d'endroits où pour le moment c'est encore flou. Et donc c'est ça qui va se jouer et c'est sur ce qui reste flou que les 150 jugeront plus ou moins fermement à la rentrée. Ce qui est important, et il y a eu quand je dis qu'il y a eu un premier moment de vérité, c'est qu'il a retoqué trois mesures. Il a retoqué, ce que je disais tout à l'heure, cette idée de taxer à hauteur de 4% les dividendes d'entreprises qui distribueraient plus de 10 millions de dividendes à l'année. Ça montre bien que le positionnement qu'il a, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il considère, si je caricature complètement, que, en gros, la droite n'a rien compris à l'écologie, ne sait pas ce que c'est, n'en fait pas. Moi, je suis au centre, Emmanuel Macron, je suis pour une croissance verte, un truc qui crée des emplois et qui est bon pour l'écologie. Et à gauche, c'est les écolos, eux, c'est des décroissants, ils sont complètement fous, ils veulent plomber l'économie du pays. Je caricature, mais en gros, c'est ça, son message. La deuxième qu'il a retoquée, c'est le 110 km/h. Ça, je pense que... dans les 150, il y a des avis divisés, évidemment, parce qu'en gros, il y avait quand même 60-40. Mais que, à titre personnel, je pense que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, si on prend d'autres processus d'assemblée citoyenne, il y a des endroits où on met un seuil à 65% ou 70% pour que la proposition puisse passer. Parce que quand vous avez un vote à 40% d'une assemblée qui a délibéré pendant 9 mois, en général, le vote dans la population... est encore plus faible, et donc déjà à 40%, vous avez des émeutes demain si vous mettez un truc comme ça. Et dernière chose qu'il a retoqué, c'est cette idée d'avoir dans le préambule de la Constitution une sorte de hiérarchie des priorités. La manière dont il a justifié, c'est de dire « moi je veux pas mettre l'environnement au-dessus des droits de l'homme ». Ce qui n'était pas la proposition des 150, ce que proposent les 150, c'est de remettre l'homme au milieu de la nature. Mais ça, c'est des grosses divergences politiques et des manières de lire le droit très différentes. Donc lui, il l'a interprété comme ça, et c'est encore une fois, à mon sens, un positionnement politique et une lecture qu'il a, lui. Donc voilà ce qu'il a pris, voilà ce qu'il a retoqué, et ce qui est très important, c'est que les 150 le jugeront sur des actes. Ils ont créé une association, les 150. Ils ont maintenant un site internet, ils ont déjà envoyé un premier communiqué de presse en disant qu'ils pouvaient à la fois comprendre toute la complexité, les échéances que pouvait avoir le gouvernement, mais qu'ils étaient aussi très conscients des omissions, des flous et des effets d'annonce sur l'écologie que le gouvernement pouvait avoir et qu'ils jugeraient sur des actes, en gros, et qu'ils jugeraient à la rentrée. Est-ce qu'il y a vraiment un projet de loi? Est-ce que le plan de relance intègre des éléments vraiment écolos ou pas? Donc rendez-vous à la rentrée pour savoir ce qu'ils pensent, eux, à 150, en ayant les premières actions du gouvernement sur cette question-là, ce qu'ils en pensent.
Moi, je voudrais revenir sur une mesure dont tu as déjà parlé. Quand j'ai écouté, en fait, moi, le discours du président de la République lundi dernier, je l'ai écouté, j'ai lu toutes les propositions des 150, et un truc qui m'a marqué, c'est qu'il dit « je retoque trois mesures sur vos 149 mesures ». Mais en fait, quand on l'écoute parler, il en modère certaines aussi. Il y en a quelques-unes, donc il dit « oui, ça, totalement, je suis d'accord », et il y en a d'autres qui modèrent. Et notamment sur ce que tu disais tout à l'heure sur les lignes d'avion à fermer quand on peut faire le trajet en moins de 4 heures par train, lui, il dit « 4 heures, c'est quand même beaucoup, hein. On fera 2h30 parce qu'il ne faudrait pas réenclaver des territoires ». Donc moi, en fait, j'avoue que ma réaction quand j'ai écouté ce discours, c'était de me dire, bah, en fait, il a beau dire qu'il en adopte, enfin, qu'il veut en soutenir 146 sur 149, j'ai pas l'impression qu'il les soutiendra jusqu'au bout, à fond. Sur le CETA, par exemple, il botte un peu en touche en disant, écoutez, là, on est en train de faire une évaluation du CETA. Une fois qu'on l'a fait, si on constate que ça ne respecte pas les termes de l'accord de Paris, alors là, je serai le premier à dire, OK, on arrête le CETA. Le CETA qui est un accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Donc voilà, j'en avais noté comme ça deux, trois, qu'il modérait franchement, en fait. Et donc je me demandais ce que toi tu en penses. Alors je sais pas si tu as envie de répondre en tant que Mathilde Himmer ou en tant que ce que tu as l'impression de retirer des positions des 150, mais est-ce que tu as l'impression de pouvoir lui faire confiance pour vraiment soutenir ces mesures ou...
Je vais répondre en tant que moi. Je crois pas, à titre personnel, en tout cas pas encore, peut-être que ça viendra en fonction de ce qu'il fait, à la conversion écologique d'Emmanuel Macron. Donc non, j'ai pas une confiance aveugle. J'ai pas envie de par principe, me dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas changer. Donc moi, je laisse cet espace de bah, ok. Si vraiment vous y êtes prêts, très bien. Enfin, il y a un moment, si le président de la République est capable de faire ce virage-là, on sort d'une crise sanitaire très importante pour l'ensemble des pays du monde entier, peut-être qu'il y a des prises de conscience. On le voit dans le milieu économique, où il y a des acteurs qui ont vraiment pris conscience, où ça a été, pour le coup, ça a été leur claque à eux. Bon. Ça peut être aussi pour le chef de l'État. Donc je ne vais pas fermer cette porte complètement. Après, je n'ai pas envie non plus d'être naïve. Donc je suis dans une vigilance extrême. Et évidemment qu'il y a 3 jokers officiels, mais qu'en réalité, il y a entre 5 et 7 jokers au total dans le discours de Macron, parce que c'est à la fois je prends 146 mesures et en même temps, je ne prends pas totalement 146 mesures. En même temps, il est toujours là, hein, c'est sa marque de fabrique. Et ça, en même temps, moi, je l'ai vécu comme un grand flou. Je crois que Greenpeace part de brouillard épais sur certains aspects de son discours. Je trouve ça assez juste. Et à ce stade, c'est pas du tout étonnant. Il faut se rappeler qu'il a répondu, et ça, c'est plutôt une bonne chose, extrêmement rapidement en 150. Il y a eu une semaine entre le moment où les 150 ont rendu leurs travaux et le moment où il a répondu. Donc ça me semble de bon augure. Après, oui, il y a des flous. Après, oui, il y a des choses. Enfin, en toute honnêteté, moi, je ne crois pas qu'au final, il va reprendre les 146 et qu'il tiendra la parole qu'il a donnée lundi. Je crois, par contre, qu'il est obligé, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, d'en prendre un certain nombre et pas que la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Et je crois que le vrai moment de vérité, en tout cas moi celui que je regarderai avec beaucoup d'intention, c'est le plan de relance. J'espère que ce plan de relance, ce ne sera pas un plan de relance du monde d'hier, mais que ce sera un plan de relance qui nous fait basculer quand même dans le monde de demain auquel j'aspire, auquel je crois que les 150 aspirent, et puis je suis assez sûre que vous deux aussi. Pour une raison qui est simple, c'est que là, il y a des centaines de milliards d'euros qui vont être mis et qui vont être la base de l'infrastructure, des infrastructures, pour les 10, 20, 30, 40, 50 ans à venir. Si là, on se plante de où on met ces euros-là, ben en fait, moi je veux dire, après, je repars en Ardèche et je vis dans ma communauté résiliente, mais j'ai assez peu d'espoir que si les relances, là, en France comme dans d'autres pays, ne sont pas dans le bon sens. Si on est sérieux avec les chiffres que nous donnent les climatologues, pour le coup, j'ai plus trop d'espoir, quoi.
J'enchaîne avec une question à laquelle je pense que s'il y en a une à laquelle tu as vraiment le droit de pas répondre, c'est celle-ci. Parce qu'elle concerne l'actualité du jour. On enregistre ce podcast le vendredi 3 juillet et on vient d'apprendre qui serait le nouveau Premier ministre, Jean Castex. Alors pour situer un peu pour celles et ceux qui n'auraient pas encore fouillé au moment où ils écouteraient ce podcast, c'est donc un haut fonctionnaire qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, travaillé aussi pour Xavier Bertrand au ministère de la Santé. Il a été chargé du déconfinement, plus récemment. Est-ce qu'on peut te demander ce que t'inspire cette nomination ou pas ?
Bah, elle m'inspire qu'il n'y a pas vraiment de grande réinvention du président de la République. Elle m'inspire que quand on avait un premier ministre de droite pour qui l'écologie était un non-sujet et qu'on change pour une autre personne de droite pour qui l'écologie jusqu'ici n'a pas été un sujet central, il n'y a pas de virage. Donc après, à voir. Évidemment qu'il va y avoir un ministère certainement de l'écologie un peu plus large, avec plus de pouvoir. Mais on sait que dans les 2 ans qui viennent, en réalité, tout va remonter à l'Élysée. Donc celui qui sera à juger sur son mandat écologique à la fin de ce quinquennat, ce ne sera pas le Premier ministre, ce ne sera pas le potentiel ou la potentielle ministre de l'écologie, plus si c'est un ministère plus grand, ce sera Emmanuel Macron. Et donc, à nouveau, Moi, je suis dans une logique où je juge sur des actes, des lois, des décrets et pas sur des beaux discours. Les 150 sont aussi dans cette dynamique-là, donc on va voir à quoi ressemble le gouvernement. C'est, à mon sens, pas de bon augure. Néanmoins, je pense que le sens de l'histoire, il est donné, que même avec ce gouvernement-là, ils seront obligés dans la relance de faire un certain nombre de choses que propose la Convention. Et que politiquement, il instrumentalise la Convention, mais si il revient complètement en arrière et ne fait rien, il aura un effet boomerang très très fort dans sa tronche. Pour une raison assez simple, c'est que quand vous regardez les réactions politiques au rendu de la Convention, vous avez les écolos évidemment qui soutiennent à 100% ELV, mais aussi Génération et tous les autres partis écolos. Vous avez aussi la gauche, et moi ça m'a peut-être plus surpris, mais LFI qui a même mis en place un site où ils disent quelles sont les mesures qui correspondent à ce qu'ils peuvent porter ou pas, et ils se retrouvent dans 90% des mesures de la Convention, alors même qu'ils font partie de ceux qui ont plutôt beaucoup tapé sur le processus initialement. Le PS aussi, et en face, on a assez clairement LR qui est vent debout contre le principe même de la convention du tirage au sort et puis ce qu'il en sort. Le FN, qui aurait pu réagir complètement différemment, là qui pour le moment a une position de juste dénoncer le fait que les propositions sont loufoques, je crois que c'est le nom qui a été donné par dans le tweet de Marine Le Pen. Néanmoins, on voit bien quand on regarde les sondages qui ont été faits là, et quand on regarde le vote FN, on se rend compte que y a un soutien, y compris dans les électeurs de Marine Le Pen, des propositions de la Convention. Et pour être très honnête, pour moi, la Convention, c'est aussi comment est-ce qu'on rabiboche des gens qui ne votent plus ou qui votent FN parce qu'ils veulent voter contre et dénoncer un système. Comment est-ce qu'on va les chercher? Donc, je suis pas du tout à dire. Allez, Le Pen, c'est vraiment tous des gros cons. Non, je pense que leur message, il faut savoir l'entendre, c'est pas que, je crois pas qu'il y a que des gros racistes qui votent Le Pen aujourd'hui et qu'il y a un message sur notre démocratie. Et j'ai espoir que ce type de processus peut aider. Et donc, ce que je voulais dire par la réaction des différents partis, c'est qu'on voit bien que, et on l'a vu au municipal, où les alliances de gauche et des écolos ont fait des très bons scores. On va parler de Vat Vert, de Raz-de-Marée. Bah, peut-être, j'espère que dans les prochaines élections régionales ou départementales, mais aussi 2022, la gauche et les écolos sauront s'allier et que si Macron ne fait pas suffisamment sur la convention, en tout cas ne prend pas tout et il prendra pas tout, ils sauront eux prendre ça comme base de leur programme pour 2022. Ça m'a l'air plutôt bien parti. Après, on verra, mais moi, c'est ce que je souhaite, quoi. Donc, à la fois, je veux bien laisser la porte ouverte à Macron au cas où. Il y a un vrai changement, un vrai virage, même si le choix du Premier ministre aujourd'hui me laisse un peu perplexe. J'ai toujours dit, et je le dirai, et je le répéterai, que s'il y a un vrai virage, je serai la première à applaudir. Mais j'ai une vigilance extrême, et a priori, au vu des derniers signaux, je suis plutôt encline à aller sur un rassemblement de gauche et des écolos qui porteraient les propositions de la Convention qui ne seraient pas reprises par Macron.
Mathilde, ça fait un peu plus de 45 minutes que je t'écoute. Et je suis fascinée parce que tu t'exprimes extrêmement clairement. Tu as un discours qui est très mesuré, intransigeant, mais très mesuré, très raisonné, très argumenté. Et je pense que ça pose une difficulté majeure qui est jusqu'à présent, c'était assez facile de critiquer les discours écologistes ambitieux en les traitant de au choix ou cumulé, doux rêveur, abruti, fou, enfin bref, toute une panoplie de noms d'oiseaux. Et je, avec toute la mauvaise foi qui serait la mienne, j'aurais toutes les difficultés du monde à essayer de te contredire sur la forme et le fond. Ma question arrive, je t'écoute depuis près d'une heure et je me demande, mais qu'est-ce qui reste comme objection contre ça? C'est-à-dire contre un travail citoyen basé sur des faits scientifiques, nourri par des expériences diverses, appuyé par un processus méthodologique testé, éprouvé, expérimenté, hein, toutes les facettes de cette, enfin, toute la panoplie. Mais qu'est-ce qui reste comme objection quand, en plus, qu'il en sort cette 150, enfin 149 propositions adoptées à une majorité écrasante, soumises derrière encore à des processus de validation, d'adoption par la représentation nationale, par le suffrage universel, enfin. Mais qu'est-ce qui reste encore comme objection ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous en train d'applaudir en disant « Super, bravo, bon travail, merci pour cette feuille de route à la fois ambitieuse et réaliste, banco, c'est parti, on y va » Qu'est-ce qui reste comme objection, comme résistance ?
Déjà, c'est quelque chose de nouveau, le tirage au sort. Et donc, il y a un temps de compréhension par les gens de, dans un pays décrit comme jacobin, hyper vertical. Il faut se rappeler qu'on a un système hyper présidentiel, hein, où la place des experts et de ce qu'on peut appeler les technocrates sont hyper forts. Le tirage au sort, c'est un ovni dans notre pays. Il y a des pays où ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'ils sont beaucoup moins dans cette logique-là. Donc c'est normal, moi je trouve ça assez naturel et voire assez sain, qu'il y ait des débats autour de la légitimité du tirage au sort. Parce qu'on arrive à un moment où on renouvelle notre démocratie, on renouvelle la manière de faire de la politique, et donc forcément ça crée des tensions pour ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir. C'est ça le cœur du problème. Et donc qu'est-ce qui reste ? Bah, y a la nouveauté, qui est toujours, et les gens, il y a, le changement c'est maintenant, bon, ça plaît pas à tout le monde comme slogan, au-delà de celui qui l'a porté pour la campagne présidentielle. Le changement c'est difficile pour les Français, donc il y a cette question de la nouveauté, hein. Et puis après, il y a évidemment ceux qui ont des intérêts contraires à ce qui sort de la convention. Il y a des lobbies, il y a certaines entreprises qui n'ont pas intérêt. Et c'est très intéressant ce qui se passe dans le monde des entreprises. C'est qu'on voit bien que la question écologique et que les propositions de la convention fracturent le monde entrepreneurial. Où vous avez toute une partie qui sont là à demander des moratoires sur les politiques environnementales, et puis à côté, des entreprises, et y compris des grosses, hein, qui vous disent « bah non, il faut accélérer la transition écologique, c'est ça qui créera les emplois de demain, c'est ça l'avenir, faut y aller ». Et donc c'est intéressant de voir quand il y a des moments de fracture. Et c'est pareil chez LREM, c'est fracturé entre ceux qui veulent aller vers ça et puis ceux qui sont encore dans ce que je qualifierais moi de monde d'hier. Et je crois que ces moments de fracture, faut savoir respecter et entendre aussi peut-être les peurs et les craintes que ça peut générer en face pour réussir à démonter les derniers... je vais dire les derniers remparts du monde d'hier qui pour moi fissurent de partout. Donc faut que ça déborde en fait. C'est pour ça que c'est hyper important que ce soit pas juste la convention des 150. Aujourd'hui c'est la convention des Français. Et donc que tous les citoyens qui se retrouvent dans ce que proposent les 150 bah, fassent connaître, en parlent autour d'eux, aillent sur les réseaux sociaux en parlent en déjeuner de famille, s'engueulent peut-être même en déjeuner de famille en discutant. Moi, ça me semble essentiel. Et on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs locaux, des présidents de régions, des maires, des gens dans les administrations qui nous disent, avant même que Macron décide ce qu'il va en faire, est-ce que nous, on peut s'en emparer et le décliner au niveau local ? Des entreprises qui nous disent, mais en plus de faire des tribunes pour les soutenir, est-ce que je peux prendre et travailler avec les 150 pour l'expérimenter sur le terrain, là, maintenant, tout de suite ? Donc je pense que c'est ça en fait le mouvement à créer, c'est comment est-ce qu'on déborde. Là on a un programme qui est ok a priori pour la population française, il faut maintenant créer le déclic qui fait que ça passe du papier voté par les 150 à la réalité dans nos vies, et ça je pense qu'on a chacun une responsabilité forte et qu'on peut continuer à se dire je vais aller chercher la pétouille du truc qui va pas dans cette convention parce que c'est une première et que on a forcément fait des erreurs, le truc n'est pas parfait non plus, enfin, faut pas déconner. Donc on peut être dans cette posture, on va aller chercher le truc qui va pas dans ce machin. Bon, bah, si vous choisissez cette ligne-là, ok, j'ai envie de dire bonjour les vieux grincheux, et puis faites mieux la prochaine fois. Ou alors se mettre dans une dynamique, bah, ok, c'est pas 100% parfait, mais globalement, c'est vraiment ça dont on a besoin. Go, je soutiens, j'y vais, je fonce, et je mets ma graine... pour enclencher cette dynamique là où je peux et comme je peux quoi.
Nous en tout cas on soutient, on est là, merci beaucoup vraiment d'avoir été aussi clair dans toutes ces explications.
Merci à vous deux.
Hop, ça vous a plu ? Bah non, c'est pas fini. Bah non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Ce serait trop cruel, voyons. Bah non. Bah bien sûr qu'on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'entretien avec Mathilde Himmer. Bah oui quand même, on n'est pas des bêtes. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Activiste pour la deuxième partie de cet entretien. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme ? Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Activiste est une émission d'interview portrait-projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram @conquérir.le.monde et dans ma newsletter bit.ly/clembodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.